En passant, avant de commencer, j'aimerais vous dire que, justement, à la bibliothèque, il y a ce livre-là de Jean-Marcel Nichols, Précis d'histoire d'Église, ceux qui sont amoureux de l'histoire. On est dans le mois de la Réforme. C'est vraiment bon, c'est facile à lire. Écoutez, il y a des séries d'historiques, 5-6 volumes, mais celui-là, là, il a réussi à condenser la Réforme, puis il va jusqu'à Billy Graham, presque. Alors, je vous invite, ceux qui veulent l'emprunter pour quelque temps, pour la lecture. Et je remercie pour l'eau. Gentil. Je ne sais pas si la gorge va me porter jusqu'à la fin, mais à la grâce de Dieu. Les amoureux de l'histoire. Vous savez... Le monument qu'on a là devant nous a été inauguré en 1909 en l'honneur du 400e anniversaire de Jean Calvin et le 350e anniversaire de la fondation de l'Académie de Genève, aujourd'hui devenue l'Université de Genève. Et on regarde ça et on se dit à nous autres mêmes, waouh, eux autres qui ont fait casser les idoles sont ramassés avec des images. Mais c'est juste pour vous dire l'impact que ces hommes ont eu à la Réforme. L'impact qu'ils ont eu sur tout le monde qui était là. Et c'est des gens qui ont vraiment sorti de la parole ce qu'on prêche encore aujourd'hui. Et c'est vraiment rassurant de voir cela. Mais ils étaient dans une époque tout à fait spéciale. Et mon petit moment historique, on m'a demandé de parler de Jean Calvin. Et vous savez, à la Réforme, il y a deux principales. Il y a Luther et Calvin, qui est pour moi les deux principales. Luther est comparé à Pierre, à Moïse. Jean Calvin est comparé à Paul, est comparé au scribe. C'est un gars qui était vraiment versé dans les Écritures, qui a écrit beaucoup. Et... Lorsqu'on regarde ces deux hommes-là, ce n'étaient pas des photocopies de l'un de l'autre. Il y avait certaines choses qui n'étaient pas d'accord, mais ça, on n'aura pas le temps de voir ça aujourd'hui. Mais j'ai divisé la vie de Calvin en 15 étapes. C'est difficile, laissez-moi vous dire ça. Parce que j'étais un gars de détails, moi, puis j'en ai coupé, là, à 15, j'étais plus capable. Là, j'ai dit, là, c'est bien de valeur d'entendre 15 étapes de la vie de Calvin. Première étape, il faut que je le mentionne, il est né le 10 juillet 1509 à Noyon. Et une affaire qui est bon aussi à savoir, c'est que Martin Luther avait 25 ans quand Jean Calvin est né. Alors, il était déjà moine, il avait déjà les luttes intérieures, tout ça. Deuxième chose, c'est que son père, ne le dites pas à personne, là, mais son nom de famille, c'était pas Calvin, c'était Gauvin. Mais dites-le pas, là, c'est pas supposé être Calvin. Et lui, c'est un notaire, en passant, Gilles, c'est un notaire, son père, et puis que lui, il était en charge, en fin de compte, d'une cathédrale responsable du tribunal ecclésiastique catholique de l'époque. Et en fin de compte, il destinait Jean Gauvin, Jean Calvin, il destinait à être un prêtre. Bon. Mais ce qui est arrivé, c'est que il y a eu une chicane. Le papa a eu une chicane avec le comité, puis il a pris son fils, puis il a dit, « Non, non, tu ne feras pas un prêtre, tu vas faire un notaire, tu vas aller étudier la loi. » Alors, il est parti à Orléans, Université de Bourges, pour étudier le droit. Et là, il a été en contact avec beaucoup de choses dans sa vie. En 1531, à la mort de son père, il est parti à Paris. Et c'est là qu'il a été vraiment exposé. Une autre chose qui est intéressante, c'est que Calvin a adopté les nouvelles idées de la réforme protestante en 1533, deux ans plus tard. À quelque part, il était très, très intéressé aux Écritures, parce que vous savez, dans le fond, là, toute part des Écritures, toute part du fait qu'il a pu apprendre le grec, l'hébreu, le latin dans ce moment-là, et il a pu plonger dans les Écritures, et les idées de Luther étaient répandues partout en Europe. Vous savez pourquoi? L'invention de 1450, Gutenberg. L'invention de la Hey, l'imprimerie, c'est providentiel pour ces réformateurs-là. Ça se répandait comme le feu dans la brousse, énormément. Et ils ont rompu définitivement avec l'Église catholique en 1534, tout en réfléchissant sur les choses. Il faut savoir, et là on n'a pas beaucoup de temps, mais il faut savoir que le contexte dans lequel ces choses-là arrivent, c'est terrible. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le catholicisme au Québec des années 20, des années 30, ici. Levez la main pour le fun. Souvenez-vous comment c'était au Québec des années 20, des années 30, la toute-puissance de l'Église catholique. Bien, multipliez ça par 10, là, puis vous retournez dans le temps de la Réforme. Le pape Léon a commencé à faire des fêtes, il a commencé à bâtir des cathédrales Saint-Pierre. Il manquait d'argent, il a inventé les indulgences, fait sortir le monde du purgatoire pour acheter deux ciels. Et c'est ce qui a déclenché, en fin de compte, les 95 thèses de Luther. Ensuite, Jean Calvin qui étudie tout ça, accès aux Écritures, parce qu'avant, les gens n'avaient pas accès aux Écritures. Luther a traduit la Bible en allemand pour que les gens communs puissent avoir la parole de Dieu. Puis il disait, le gueux derrière sa charrue, Bible en main, en connaît plus sur Dieu que le pape sans Bible. Alors, vous voyez la révolution que ça a fait. Puis Jean Calvin est arrivé plus tard, l'autre génération, et ces idées-là étaient déjà implantées en Europe. Et c'est pour ça que Calvin se trouve à Paris quand il éclate, en 1534, des affiches appelées « placards ». Ça, c'était une époque où on écrivait des pamphlets contre le pape, contre les évêques, contre l'Église catholique. Et il y a eu beaucoup de décès, il y a beaucoup de morts, les gens sont... écoutez, il y a eu la Saint-Barthélemy, il y a eu tellement d'affaires qui s'est passé, là. Les gens là-bas, là, pour leur foi, comme qu'on a vu avec Luther, ça se faisait brûler, ça se faisait tuer, ça passait vers l'épée. Parce que, d'un certain sens, l'État et le côté religieux étaient mariés ensemble, il n'y avait pas de différence entre les deux. Alors, il y avait le tout pouvoir de l'Église catholique, qui était en train de dégrader, corrompu. 1536. Là, je mentionne ça, la septième étape, c'est l'institution de religion chrétienne éditée en latin. La première fois qu'il l'a éditée, c'était en latin, puis il y avait quelques chapitres. C'était pas épais comme celle qu'on a aujourd'hui. Et puis après ça, il a quitté la France, il s'est réfugié à Bâle et a commencé à écrire son œuvre majeure en 1541. Calvin publie une nouvelle version de l'institution de religion chrétienne en français. Ça, c'était une grande révolution, ça. Avoir ça en français. Parce qu'il faut comprendre que juste les élites intellectuelles qui avaient le latin, le grec, qui pouvaient vraiment, à cette époque, avoir accès aux Écritures. Et Calvin était un homme qui était très utile. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a un gars comme Guillaume Farel qui l'a rencontré. Il était supposé d'aller une place. Là. Il a trouvé d'arrêter à cause des guerres. Puis il a vu la main de Dieu dans ça. Il a passé une nuit à quelque part. Et puis là, Farel l'a rattrapé, puis il a dit, écoute, il faut que tu viennes m'aider à mettre en pratique les idées que tu as développées dans l'Institut chrétienne, religion chrétienne. Et à Genève, il a resté avec lui à Genève, ils ont été là, tous les deux se heurtent au gouvernement des villes de Genève et sont expulsés en 1538. Et c'est pour ça que, à quelque part, c'était trop rough pour le comité de la ville. Il y avait des idées révolutionnaires, c'était des idées... qui allait tellement à l'encontre de tout, là, que les gars, ils ont été chassés. Calvin, lui, trouve refuge à Strasbourg et devient pasteur de 1538 à 1541. Et là, c'est intéressant parce que ce qu'il fait, Calvin, là, c'est qu'il fait sa job de pasteur. Il visite les gens qui ont la peste, parce que c'est de la deuxième pandémie qu'il appelle pandémie, là. Non, pas pandémie. Pandémie, oui, c'est ça. C'est la deuxième pandémie qui vient de la peste noire du 14e, jusqu'à presque 30 à 50 % de la population était tuée. Et là, il y a encore des gens qui ont la peste ici et là. Et lui, même le comité de ville, ils ont écrit des lettres à Jean Calvin en disant, « Va pas, va visiter ceux qui ont la peste. » Il n'y avait pas eux qui meurent. Fait qu'il voulait l'empêcher, puis il allait pareil. Fait que on voit que son rôle de pasteur, il le prenait vraiment au sérieux. Il prêchait trois fois par semaine, quatre fois par semaine, cinq fois par semaine. Et sa méthode de prédication, lorsqu'il était là, dans ces places-là, c'était l'enseignement textuel de la parole de Dieu. c'était pas des thèmes comme qu'on fait nous ici des fois, mais c'était comme qu'on fait aussi ici. Il ouvrait la Bible puis il enseignait verset par verset la parole de Dieu. Une autre chose en 1550 qui est intéressante, c'est les Genevois demandaient à Calvin de revenir. Ceux qu'ils avaient mis dehors en 1538, en deux ans plus tard, ils rappellent parce qu'ils ont perdu le contrôle de la ville. Ils ne savent pas comment faire un culte, ils ne savent pas comment organiser l'Église. Et là, Calvin retourne, il voit l'appel de Dieu dans ça, puis il s'installe de nouveau à Genève en 1541. Il organise l'Église réformée. Donc, autant que Luther était celui qui a passé au travers puis a confronté l'Église catholique face à face, autant Calvin était un administrateur. C'est un gars qui organisait les Églises. C'est un gars qui a tout mis sur pied, la manière de faire le repas du Seigneur, la manière de faire ceci puis cela. Il a tout installé ça, puis souvenons-nous, que la ville entière devenait du jour au lendemain protestante. Un peu comme Constantin en 313, là, l'Europe est devenue chrétienne du jour au lendemain. Les comités de ville, il y avait des choses horribles qui se passaient, puis ils ont fait des choses horribles aussi. Mais c'est juste pour vous montrer que Calvin, lorsqu'il était dans son époque, sa force, c'était qu'il était un homme qui organisait les réunions. Il savait comment faire les réunions pour enseigner la parole de Dieu, avoir des temps de louange, avoir le repas du Seigneur, ces choses-là. La onzième étape que j'ai vue, qui était intéressante aussi, est publier un commentaire sur l'Épître aux Romains. Et ça, c'est intéressant parce que c'était pas disponible à ce moment-là. Nous, ici, on est gâtés, j'ai plein de livres qu'on peut lire, il y a des commentaires partout. Mais dans cette époque-là, c'était extraordinaire de voir dans la langue du peuple des commentaires. La douzième étape de sa vie, c'était les idées de Calvin s'exportent rapidement partout dans le nord, de l'est, l'Europe, notamment l'Écosse, les Pays-Bas, dans certaines régions allemandes, en Hongrie et en Pologne. Ça se répand à la vitesse de lumière, presque, à cause de l'imprimerie, comme on a dit tout à l'heure. Et ces idées étaient accrochées à la parole de Dieu parce que les gens avaient de plus en plus accès à la Bible. Une treizième étape, c'est qu'il s'efforce d'organiser l'Église réformée en France et soutient les Églises réformées qui sont créées en leur envoyant des pasteurs formés à l'Académie de Genève, donc il a fondé en 1559. Il a envoyé des centaines de missionnaires en Europe, en France, pour annoncer l'Évangile, pour prêcher l'Évangile, faire des réunions chrétiennes qui étaient contraires au catholicisme à ce moment-là. Et Calvin, lui, croyait que, pour la table du Seigneur, que le Saint-Esprit accompagnait les éléments, qui n'étaient pas dans les éléments, puis c'était un emblème, un symbole, mais la présence du Seigneur spirituellement était là. Et il organisait toutes ces églises-là. Mais n'oublions pas que ces gens-là sortaient d'une doctrine qui disait que lorsqu'ils prenaient l'Eucharistie, qu'ils mangeaient Dieu, ils ne pouvaient pas croquer. Il y avait toutes sortes de superstitions, ce que le Saint-Esprit descendait avec les deux doigts consacrés, etc. Il y avait toute une formule, et là, Calvin arrive avec une autre manière complètement pour faire le mémorial qui est la table du Seigneur. Quatorzième étape, il écrit de nombreux traités, donne des cours publics, s'épuise à la tâche, et... il va mourir en 1564. Il est auteur de 59 livres puis plus de 4000 lettres. Il y a beaucoup de documentation. Il y a des commentaires sur des psaumes. Il y a toutes sortes de choses. Quelqu'un qui veut vraiment étudier sa vie, là, il y en a pour longtemps. C'est énorme, ce que cet homme-là a fait. Puis, je voulais mettre ça ici, là, la 14e aussi. C'est Idolette de Bourg, 1505. Il a marié une veuve. Une veuve qui avait un enfant, lui-même a eu des enfants qui sont morts en bas âge, on n'a pas plus d'informations que ça. Mais, puis en passant, c'était une baptiste. C'est une anabaptiste qui a marié. C'était une veuve, son mari est mort de la peste. Et c'est quand elle est décédée, il a écrit des choses extraordinaires sur elle, que c'était une femme dévouée pour les pauvres, une femme de Dieu, avec une piété hors du commun. Donc, le Seigneur y avait donné une femme pour lui, parce qu'il était souvent parti. Même ses amis l'accusaient. « T'as-tu une vie de famille, toi? » Ça, vous savez, ceux qui sont à l'œuvre, là, ils peuvent vraiment dire, là, hey, gérer un agenda, c'est difficile, hein? Il faut gérer un agenda. Puis Calvin, il était dans des temps vraiment, vraiment hostiles. Il fallait qu'il voyage beaucoup, ces choses-là. La 15e étape que j'ai choisie, c'est la réunion qui a eu lieu à Lausanne du 1er octobre au 8 octobre en 1536, où les protestants, emmenés par Guillaume Farel, Jean Calvin et Pierre Virette, n'eurent pas de peine à dominer la controverse. C'est-à-dire qu'il est en train d'expliquer c'est quoi une église chrétienne. C'est quoi, comment qu'on fait un culte, comment qu'on se rappelle du Seigneur. Et dans ces conversations à Berne, on a considéré la victoire intellectuelle des réformateurs et publié le 19 octobre 1516 un mandat ou un commandement ou une chose à faire qui interdit la célébration de la messe. C'est fort, ça, là. Oubliez pas ça, là. Il interdit la célébration de la messe et adjoint d'abattre les statues et les autels toutefois, ça c'est écrit en vieux français, là, toutefois, cela par bon ordre et sans tumulte. Ces 15 étapes, c'est une goutte d'eau dans sa vie, hein. Mais c'est juste pour nous faire connaître un peu plus Jean Calvin. Un homme qui a eu accès aux Écritures. Puis, savez-vous ce que je pensais cette semaine? Nous, on prend nos Bibles, puis on prend ça, on a plusieurs versions. On prend ça pour acquis. On lit ça vite, sans trop y réfléchir. Mais vous savez, c'est à cause des hommes comme ça qu'on peut vraiment l'avoir dans nos mains. Ça a commencé là, la Bible. Parce que toutes les années, à partir du 4e siècle, aller jusqu'à la Réforme, c'était la religion tricotée par les hommes. Où du pauvre monde donnait des centimes pour gagner leur ciel, pour acheter leur ciel, pour sortir du purgatoire. Et l'Église catholique, naturellement, a fait une contre-réforme un peu plus tard, mais dans l'époque de Jean Calvin, c'était une révolution extraordinaire. Des personnes ordinaires comme nous pouvons lire la Bible. C'est un privilège, ça? Vous avez le privilège de lire la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu. Là, ça me dit, Michel, ça c'est à moi, ça. Alors, regarde l'heure comme il faut, là. Bon, d'accord. Ça finit à 1h30? Non, mais le Seigneur dit, l'Esprit est soumis au prophète. C'est-à-dire, on va avoir de l'ordre ici ce matin. Mais c'est important, puis je vous encourage à lire des livres historiques. J'en ai un paquet à la maison, là, les Huguenots, la Tour de Constance. Parce qu'on est tellement au Québec dans la ouate qu'on ne réalise pas le privilège qu'on a. Donc, on va avancer ensemble. Donc, j'ai vu les cinq sauts-là, moi, comme tu jettes une pierre dans l'eau, là, puis ça fait des ricochets, là. Ça part toutes des Écritures en posant. Ça part pas d'une tradition d'homme, ça part pas de quelqu'un qui a inventé une manière de faire la religion. Ça part des Écritures. Ces Écritures. Après, ensuite, c'est la grâce. On a découvert la grâce, le cadeau de Dieu. La grâce spécifique à Dieu. Il y a la grâce commune et la grâce spécifique. Dieu est gracieux, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Ensuite, on a mis l'emphase sur la foi seule. Et ça, mes amis, là, c'est quelque chose de puissant, la foi seule. Hein? C'est celle-là qu'on a un matin. Vous venez faire perdre la job à tous les prêtres du temps de Calvin. Vous venez de faire perdre tout l'argent au Vatican. Vous venez de faire perdre le prestige des hommes, le contrôle sur les gueux. Dans ce temps-là, un gars bien ordinaire, c'est un gueux. Tu sais? Tu perds tout. Là, quand tu arrives, tu dis, la foi seule, plus capable de vendre d'indulgence, ils nous enlèvent notre argent. Plus capable de faire chanter parce que C'est la foi seule, comme ça, il ne faut pas qu'il fasse des pénitences. Il y avait les pénitences dans le temps. Il fallait qu'il se repente, qu'il fasse des pénitences. Il perdait l'autorité de confesser les gens, parce que c'est la foi seule en Jésus-Christ. La relation avec Dieu personnelle, et non pas la religion instituée. Alors, c'était un grand bouleversement. Ensuite, on va voir, dans les prochaines semaines, Christ seul, et ensuite, le dernier, Sola, qui a ressorti de la réforme. Et c'est pas nécessairement un réformateur plus qu'un autre. C'est ce qui a sorti de tout ça, à la fin de compte. C'est à Dieu seul la gloire. Regardez là ce que la parole de Dieu fait dans cette époque et dans notre époque, lorsqu'on rouvre la parole, puis on l'étudie, puis on la lit. On s'aperçoit que la parole a une suprême autorité. Ce n'est pas le magistère. Ce n'est pas la tradition orale que les papes se sont transmises au travers des siècles. C'est la parole de Dieu. Et la théorie du dernier inspiré rentre là-dedans, mais on en parlera une autre fois. Mes amis, réalisons le cadeau que la réforme nous a donné. Réalisons cela. On va aller un peu plus vite. La foi seule, seule la parole de Dieu a l'autorité spirituelle. Où est votre autorité, vous, là, qui êtes assis là, un matin, là, vous allez rencontrer quelqu'un aujourd'hui ou vous allez parler à quelqu'un, vous allez dire, si tu meurs sans accepter Jésus-Christ, tu vas passer l'éternité loin de Dieu. Quelle autorité vous avez pour dire ça, vous autres? Parce que vous êtes plus fin que les autres. Où est votre autorité? Vous savez pourquoi que la parole est attaquée? Parce que la parole donne l'autorité aux enfants de Dieu de dire avec conviction, avec fermeté, appuyé sur la parole, qu'il n'y a de salut en aucun autre qu'il y a sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Alors, tous ceux qui inventent des religions, puis des sectes, puis des gourous, là, passent tout à côté de la parole. Jude nous dit, dans Jude 3, vous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Regardez ces trois versets. Ici, dans Romains 10, 16 et 17, mais tous ceux qui n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, ainsi que dit Isaïe, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi, la source de la foi, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi. Troisième verset. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, un seul Père en tous. Je vous pose la question. Mettez ça à table, cette foi-là. Où est-elle, cette foi-là? Transmise au sein une fois pour toutes. Où est-elle? Le corps de doctrine. La foi n'est pas votre foi subjective à vous. C'est le corps de doctrine de la parole de Dieu, transmise au sein une fois pour toutes, qui nous enseigne comment devenir enfant de Dieu, comment vivre pour donner gloire à Dieu, comment être des chrétiens qui honorent le Seigneur dans leurs décisions, dans leur style de vie, etc., etc. Une seule foi, et cette foi vient de la parole de Christ. Alors, ce n'est pas que je me lève un matin puis je me sens chrétien, où je me lève un matin puis je ne me sens pas chrétien, et puis je ne sais pas sur quoi m'appuyer pour dire, même si je ne fais le pas, je suis vraiment un enfant de Dieu qui fait le pas. C'est la parole de Dieu. Pourquoi vous pensez qu'on enseigne la Bible? Pourquoi qu'on donne des cours? Pourquoi qu'il y a EBE? C'est à cause de cela, parce que le peuple de Dieu est reconnu pour demeurer dans la parole de Christ. Que la parole de Christ demeure parmi vous et en vous. C'est notre autorité spirituelle. Ça dépasse le pape, ça dépasse les mormons, ça dépasse les Jéhovah, ça dépasse toute personne qui pourrait inventer une manière de sauver vos âmes par la foi seule. Là, je vais y aller rapidement, mais des versets qu'on connaît tous. Juste laissez pénétrer, observer le texte. Car je n'ai point honte de l'Évangile. Ça, c'est Romains, hein? 1,18. Pourquoi que tu n'as pas honte? Parce que c'est la puissance, c'est la dynamite de Dieu. C'est la puissance de Dieu parce qu'en lui est révélé. Il y a quelque chose qui est révélé par l'Évangile. Qu'est-ce qui est révélé par l'Évangile? En fin de compte, c'est la justice.
de Dieu.
Comment, et ça c'est le problème de tous les siècles, comment est-ce que nous pouvons nous présenter devant Dieu justifiés, selon la justice de Dieu? Comment t'as accepté? Alors, Jean ici, qui est un, pas Jean, mais Paul ici, excusez, c'est Paul ici qui est en train de résumer presque l'Épître aux Romains, nous dit en fin de compte que l'Évangile que nous prêchons, Jésus-Christ crucifié, et par la foi seule, dans le sacrifice seul de Jésus-Christ, on devient un enfant de Dieu, nous révèle quoi? La justice de Dieu par la foi, puis regardez le terme ici, par la foi, puis pour la foi. Traduit différemment dans vos versions que vous avez avec vous. Ça a donné un gros mal de tête à bien du monde, ça. Et puis, on peut pas jouer avec ça trop. Par la foi, puis pour la foi. Ça commence par la foi, puis ça finit pour la foi. Comprenez-vous? La foi crée la foi. Là, il faut faire attention pour pas tomber dans le mysticisme. Tu sais, j'ai la foi, donc je suis correct. J'ai la foi dans la foi. La foi dans la foi, ça ne marche pas. C'est de la boucane, ça. La foi, toujours besoin d'un objet. La foi en... Ça prend beaucoup de fois à prendre une prescription du médecin que tu ne peux pas lire. Le donner au pharmacien que lui, tu penses qu'il va le lire comme vous. Et puis, t'es arrivé chez vous avec la posologie puis commencer à prendre des pilules. Ça prend de la foi. Ça prend de la foi. Blondin, ça prenait de la foi pour traverser les chutes de Niagara avec sa brouette. Tout le monde criait la première fois. « Hey, c'est merveilleux ce que tu as fait, Blondin! » Puis là, il disait, « Pensez-vous que je suis capable de le faire avec quelqu'un dans ma brouette? » Puis celui qui criait le plus, « Oui, t'es capable! » Il dit, « Viens, embarque! » Non. » Puis son manager embarquait à sa place pour démontrer la leçon d'objet. C'est pour vous dire que la foi de là vient à quelque part. La foi, c'est pas le mysticisme, c'est pas que... Parce que c'est des mots, en fin de compte, qui sont très, très, très utilisés plus de 240 fois par la foi dans le Nouveau Testament. Pour le salut de quiconque croit. Parce que le mot foi veut dire croire. Pistis, c'est un petit mot de rien qui veut dire croire. Ça l'explique, ça. Pourquoi? Parce que le juste vivra par la foi. Habacuc 2, 4. Vive par la foi. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça? Faire des folies? Je n'ai pas le temps de compter mes jokes, là. Attends un petit peu, il était 25. Non, on va sauter ça. Non, mais c'est Fernand Saint-Louis. Il s'en m'a emprunté de l'argent en 1959. Il dit au gars, il dit au gérant de caisse, il dit, oui, vous travaillez où? Il dit, je vis par la foi. Ben, il dit, monsieur, il dit, nous autres, on vit par le foin, puis il dit, t'auras pas d'argent ici. Il m'a conté ça, c'était bon, ça. J'ai trouvé ça bon. Mais voyez-vous, l'idée, c'est quoi vivre par la foi? Croire Dieu au point d'agir selon Dieu. Croire Dieu. À quelque part, vivre par la foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. On peut se poser la question aussi de... Ça, c'est Jeanne Darby qui a dit ça. Puis vous pouvez vous poser toutes sortes de questions. Là. Seule la foi sauve, mais la foi qui sauve n'est jamais seule. Bon, où est-ce qu'on s'en va? Seule la foi sauve, mais la foi qui sauve n'est jamais seule. Parce que Jacques 2 en parle, hein, de la foi stérile, la foi morte. Et là, il faut distinguer là quelle sorte de foi que j'ai, mais comment on va le savoir? Bon, hein? C'est une bonne question. Alors, il y a un texte dans la Bible, on va le voir tout à l'heure où il est. Là, pour tout ça, je ne veux pas vous concentrer sur ça. Afin que nous marchions en elle. Elle, c'est quoi? Je vais vous le dire, c'est les bonnes œuvres. OK? Autant que dans l'ancien monde, avant la réforme, tout ça, on persuadait les gens qu'en faisant des bonnes œuvres, on gagnait notre ciel. Dans la Bible, lorsqu'on lit la Bible, on s'aperçoit que afin que nous marchions en elle. On marche dans les bonnes œuvres. Certaines versions ont pratiqué, c'est le même mot, c'est le mot marcher que là. Une chose, car nous sommes son ouvrage. Donc, qui sommes-nous? Qui nous a fait? Qui a fait de nous des enfants de Dieu? C'est Dieu. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créés dans le Christ Jésus. Là, vous venez de percevoir que ce n'est pas la seconde Genève, hein? C'est Darby. C'est plus exact. Excusez, là, des fois, il est bon, Barbie, dans ces affaires-là. OK, excusez. OK, ayant été créé dans Jésus-Christ. Donc, nous sommes l'ouvrage de Dieu, on a été créé en Jésus-Christ, parce que c'est son sacrifice seul, par la foi seule, qui fait de nous les enfants de Dieu. Et pourquoi tout ça? Pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous autres. Si vous êtes assis ici et que vous dites que vous êtes enfant de Dieu et que vous pensez que vous n'avez aucune œuvre à faire, vous vous trompez. Dieu a préparé des œuvres d'avance pour nous afin qu'on marche dedans. Et c'est naturellement qu'on ne fait pas toute la même affaire. 1 Pierre 4, 10 et 11 nous dit qu'on est hein, par les grâces de Dieu, et celui qui parle, ce soit selon les oracles de Dieu, tu restes entre les deux couverts de la Bible quand tu parles. Celui qui rend un ministère, un diaconéos, qui va rendre un service, il le fait selon la force que Dieu lui a donnée, parce que tout ça, c'est pour glorifier Dieu. Et c'est ça qu'Éphésiens nous dit ici. Éphésiens 2, 10 est en train de nous dire, après avoir dit au verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don gratuit de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Mais que font les œuvres dans la chrétienté? Les œuvres ont été préparées d'avance pour nous afin de marcher dedans. Qui fait une foi agissante, une foi qui porte du fruit, une foi qui glorifie Dieu, une foi qui nous garde dans les mauvais temps et dans les bons temps pour la gloire de Dieu. Une autre manière de le voir. Moi, je suis bien visuel, hein, fait que les faits en images, plus facile. Dieu nous dit marcher par la foi. Ça veut dire quoi? Le corps de doctrine, la foi. Tu veux prendre des décisions, tu veux faire des priorités dans ta vie qui vont honorer Dieu, qui va être béni par Dieu, bien, commence par vérifier ce que la foi biblique dit de ça, le corps de doctrine. OK? Puis là, je marche, obéissant, oh, il y a une erreur, là, hein? Excusez. La vie chrétienne, c'est on obéit. Et là, on sait quoi faire avec la désobéissance, hein? Savez-vous quoi faire? Oui, dites oui, ça m'inquiète. 1 Jean 1. Nous confessons nos péchés, les fidèles justes nous pardonner, nous purifier de tout péché. On dit comme Dieu en ce qui concerne le péché. Et là, on marche. Là, Romains 5, 5 nous dit qu'on a été remplis de l'amour de Christ. Le Saint-Esprit a déversé en nous la qualité d'amour dont Dieu nous a aimés. On a une manière d'aimer extraterrestre, une manière que Dieu aime. Nous, on a la possibilité, à cause de Christ, de son Esprit, de sa parole, d'aimer comme Christ aime. Et là, il prépare des œuvres. Il les prépare, mes amis. On n'a pas même ce qu'on a à la tête. Quand c'est pas à la tête, il les prépare les œuvres. Que les œuvres viennent s'ajouter à la foi. La foi agissante, la foi qui vit, la foi qui se multiplie, la foi qui donne de la grâce et la capacité de monter sur un bûcher dans le temps de la réforme. De se faire couper les deux mains, de se faire saucer dans l'huile bouillante. Alors vous lirez ça, vous allez voir. C'est cette sorte de foi qui est la foi. Mon juste vivra par la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance puis une démonstration. Puis, je vais vous faire un exemple là-dessus. Je vais vous démontrer ce que vous ne voyez pas. Je pense. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'ait pas été de choses visibles. On vient tout répondre aux questions scientifiques, ça. OK. C'est par la foi qu'Abel, c'est par la foi qu'Enoch, et là, il y a tous les héros du chapitre 11. La foi ou ta foi? Voilà la question. Or, la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Ça a-tu de l'allure, ça? Or, sans la foi, sans la parole de Dieu, sans cette parole de Dieu agissant en moi, il est impossible de m'approcher de Dieu, parce que cette foi produit une confiance en Dieu, une croyance que Dieu est réel. C'est pas un mot magique, foi, là. Ça veut dire croire. Croire au point que ma vie est transformée par les vérités de la parole de Dieu. Premièrement, Dieu existe. Ah, ce journal de Montréal, ça a marqué que Dieu n'existe pas. Il y a de la vie, peut-être une planète qu'ils viennent de trouver. Ah, qu'il est celui qui donne la rémunération, qui est très dur à traduire, disons récompense. C'est lui qui donne la fin de tout. Il amène à la perfection cette foi. Cette foi, c'est lui qui assemble, c'est lui qui la purifie cette foi, qui travaille dans l'homme qui se soumet à lui et de ceux qui le cherchent. Rapidement. Le problème dans le temps de la réforme, c'est le même problème qu'aujourd'hui. Les gens vont dire, je vais faire des bonnes œuvres, je vais atteindre un Dieu saint et juste. D'autres ont dit, moi, je vais inventer une religion. Vous allez faire ça, faire ça, faire ça, vous allez plaire à Dieu, puis vous allez traverser l'autre bord. Il y en a qui ont dit, non, non, c'est la philosophie. Tu sais, pourquoi que la lumière est allumée là-bas? Puis il y a toutes sortes de raisons. Philosophie, l'amour de la vérité, donc on veut philosopher, et c'est des questions, des questions, des questions, des questions, des questions. Il y en a d'autres, c'est la moralité. Hey, j'ai toujours rempli mes rapports d'impôts comme il faut, j'ai jamais triché ma femme, donc je suis sûr d'aller au ciel. Moi, j'ai élevé 12 enfants, j'ai eu de la misère, mais m'a dit de quoi, dans ce temps-là, c'était de l'ouvrage. Ma grand-mère me disait ça. OK, là, sa sincérité. Il va dire, je suis sincère. Je suis sincère, moi, je crois. Avez-vous vu Madonna, là, elle porte parole pour la cabale? Quelqu'un a vu ça? Non? OK, je n'en parlerai pas. La cabale, ils ont tout un petit chose dans le côté gauche, un petit ruban rouge. En tout cas, c'est une autre histoire. Ils sont sincèrement dans ça, là, ça donne le but de la vie, ça donne la bénédiction de la vie. Et toutes ces choses-là, la sincérité, bien, laisse-moi vous dire quelque chose. Si je sors d'ici tout à l'heure, puis je m'en vais au coin ici, puis je vire à gauche, puis je crois m'en aller à Montréal, même si je suis sincère jusqu'à Saint-Anne-de-la-Parade, je m'en vais pas à Montréal. Êtes-vous d'accord? La sincérité sauve rien, sauve personne. Donc, il y a aussi celui qui dit, moi, je vais le faire à ma façon. J'ai ma façon d'atteindre Dieu. Dieu, je l'ai depuis que je suis petit enfant. Dieu, je l'ai toujours eu. Puis Dieu, là, c'est ma façon. Je vais inventer ma propre religion. Puis, je vais être correct. Non. Seule la foi. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous pose la question. Êtes-vous ici ou là? Soit qu'on est séparé de Dieu, une vie dénuée de sens, on manque le but de la vie, ou soit qu'on est avec Dieu, on a la paix, le pardon, la vie abondante spirituelle et la vie éternelle. Et la seule manière d'y aller, lorsqu'on est là, c'est de passer par... Tout le monde connaît la question? La foi seule en Jésus-Christ. Mais on va vous dire quelque chose. On a tous une sorte de vouloir charnel à faire un petit quelque chose pour être béni plus, pour être sauvé plus. Et c'est ça qui est épeurant. Parce que n'oublions pas, il y a beaucoup de gens qui disent « Jésus est mort pour mes péchés ». Mais ils rajoutent « plus mon attitude, plus que je vais à la chapelle trois fois par semaine, plus que je lis la Bible, plus que je prie, plus que ça ». Non, 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 non. Ça, c'est les fruits de la réelle repentance, la réelle foi qui fait qu'on lit notre Bible, on prie plus, on annonce le Seigneur. C'est des fruits et non pas un agent qui nous aide à plus nous sauver. Pratiquer les œuvres dignes de la repentance. Dans Actes 20, 26, Paul va dire ceci. Mon évangile, c'est la conversion envers Dieu et la pratique d'œuvres qui est digne de la repentance. Est-ce qu'on a entendu cet évangile-là déjà? Ou vous avez entendu « Accepte Jésus dans ton cœur, tu iras pas en enfer? » Ou « Hey, c'est par la foi seule que tu es sauvé, là. Fait que reste assis, puis même pas trop de train. » Ça sera pas long. Donnez-moi 2 minutes. Hey, celle-là, c'est le fun. Hein? Bon, on va vous montrer la foi, c'est quoi? L'affaire invisible. Depuis qu'il neige, là, j'ai mal dans les genoux. Bon. Moi, je regarde ça, cette chaise-là. Là. C'est une super belle chaise. Ouais. Je la regarde, puis je dis, « Hey, c'est une belle chaise, ça. Elle a l'air solide. » Puis gardons ça, oui, mais attends un peu, là. Faut que l'étudie comme il faut, là, voir ce que ça fait. Ah, ça rouvre, voilà, dans un. Hey, regardons, il y a ça quatre pattes. Solide. Solide, la chaise. Belle chaise. Ah, moi, j'aime ça, moi, être avec les chrétiens, ils prêtent le trailer, ils nous font des commissions. J'aime bien ça. Ah, j'ai la foi, oui, j'ai la foi. Oui, je crois. Oh oui. Wow. Ouais. OK. Hein? C'est ça, là, la foi. La foi, ça va être le geste invisible que je vais faire de conviction et de confiance que la chaise est capable de me porter. C'est ça, la foi. C'est ça, la foi. Et je voulais vous le faire, mais il est trop tard. Levez-vous debout pour accorder votre chaise. Puis dites-vous une affaire. Faites-le pas, là. Faites ça de mon téléphone. On n'a pas le temps. Regardez votre chaise, puis dites-vous une affaire. Combien de temps vous avez réfléchi avant de vous asseoir sur la chaise? Robert, combien de temps tu as réfléchi? Pourquoi? Tu étais persuadé que même si tu es pesant, elle va se soutenir pareil. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour le temps ensemble. La foi seule. Quel beau cadeau, Seigneur. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par l'ascétisme ou par toutes sortes de choses inventées par les hommes que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons la vie éternelle, que notre destinée éternelle est dans tes mains, Seigneur. C'est parce que dans ta grâce, tu as suscité en nous cette foi qui vient de toi, et toi qui la crée, toi qui la maintiens, et toi qui bientôt va venir, puis lorsqu'on va te voir face à face, on n'a plus besoin de foi parce qu'on va t'avoir vu. Seigneur, on croit, même si on ne t'a pas vu, puis on croit que tu reviens bientôt. Dans un monde pervers et corrompu, un monde en chute libre, nos yeux sont sur toi, l'auteur de notre foi et celui qui l'amène à la perfection. Sois avec nous, Seigneur, dans cette course à obstacles de nos vies chrétiennes, afin de réaliser et de vivre en marchant dans les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Amen. Puis pardon pour le... Je ne jouais même pas l'horloge ici, là. Et tu pris 10 minutes de plus?